9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules en direct avec vous comme tous les jours de 9h à midi. Aujourd'hui, le trio de GG, Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports, Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie, Yaouter Ben Mohamed, de la présidente de l'association Marseille en colère. Le GG, c'était match tout à l'heure à 11h20. Y a-t-il un problème de violence dans la police française? Oui ou non? On a toute cette polémique, ce débat sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. On a vu les manifestations, on a les prises de parole de la gauche, on a les prises de parole de Gérald Darmanin. Tiens, ce matin encore dans le Parisien, aujourd'hui en France, du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui dit « Nous ne sommes pas dans un état policier. La police répond aux provocations, répond aussi aux jets de pierres et de projectiles qu'elle subit. » Donc, y a-t-il un problème de violence dans la police? Kauter dit oui, et Kauter va être seul face au reste du monde, incarné par Kevin, Jean-Baptiste et Olivier. Mais on sait qu'elle relève tous les défis, Kauter. Elle sera face aux trois mâles blancs.
Seul contre tous, comme d'habitude.
Mais vous pouvez venir soutenir Kauter au 32-16 tout à l'heure dans le GG 7 et match. En attendant, c'est le à vous de choisir.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
C'est vrai qu'on va avoir un président qui va aujourd'hui présenter son plan eau. On a un débat sur l'eau aussi qui arrive à l'Assemblée nationale. On a un problème de la sécheresse, des restrictions dans bon nombre de départements. Et puis du coup, ça nous interpelle dans notre comportement du quotidien, dans nos usages. Est-ce qu'on doit arrêter avec les baignoires? Aujourd'hui, la baignoire, ça appartient au passé. Et plutôt prendre des douches, c'est la réflexion qui vient aujourd'hui. C'est même des propositions qui viennent du camp écologiste. Si vous voulez qu'on en parle au 32-16. Alors, est-ce qu'on arrête avec les baignoires? La question est posée.
La question, elle est posée parce qu'on sait que l'eau coûtera de plus en plus cher, parce que le produit sera de plus en plus rare. Donc on peut alléger nos factures d'eau et de chauffage et gagner du temps aussi en allant tout simplement directement vers la douche, en remplaçant notre baignoire par une douche. Alors est-ce que vous êtes prêt à le faire? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut interdire l'installation de baignoires pour les nouveaux logements?
Alors qu'en dites-vous, Kauter, Kevin, Jean-Baptiste? Tu es douche ou bain?
Plutôt douche, bon, ça m'arrive une fois, très rarement. Enfin, moi, je suis plutôt hammam, pour être très honnête. Donc, de temps en temps, je me fais un bon hammam. Ça me détend. On utilise aussi beaucoup d'eau, mais c'est ponctuel. Je crois que je crois que le monde a changé et il faut que chacun soit raisonnable, en fait. Tu vois, entre ne pas prendre de bain et comme la petite Sarah Salman l'a dit, je prends deux bains par jour et j'emmerde le monde, il y a quand même un écart intergalactique, tu vois. Donc, on peut être raisonnable. Bien sûr, on se douche. D'abord, qui a le temps de prendre un bain par jour ou deux bains par jour? Il faut vraiment avoir du temps à perdre sur ça, parce que voilà, on est dans un monde où on va vite, mais je crois que vraiment le monde a changé et qu'il faut, de manière générale, que ce soit pour l'eau ou pour l'énergie, consommer différemment et de manière raisonnable, tout simplement.
Alors, sur les baignoires et les douches, une baignoire contient en moyenne, 150 à 200 litres d'eau. Donc on se dit, 150 à 200 litres d'eau, tu les fais tomber pour être à l'aise, ça te retrouve au corps. Donc la baignoire, elle est perdante dans le match face à la douche. Sauf que, quand on prend une douche, on consomme en moyenne entre 17 et 20 litres par minute. Donc, faites le calcul, si on veut faire en sorte que ce soit beaucoup plus économe que la baignoire, il ne faut pas que ça aille au-delà
7 minutes max, quoi.
Voilà, des 5 minutes, 5-7 maximum. Mmh. Alors, douche ou baignoire, Monsieur Djebari?
Bon, d'abord, on a effectivement une pensée émue pour Sarah Salman qui prend 8 bains par jour et qui a vu ça comme effectivement probablement la fin du monde. Moi j'avais lu, alors j'ai pas d'avis vraiment tranché sur le sujet, mais j'avais lu qu'il y avait des innovations assez intéressantes et que typiquement, c'était un Français qui avait inventé ça, qui récupérait l'eau de la douche ou du bain pour alimenter, pour en gros utiliser ça dans l'eau des toilettes.
Ouais.
Et que ça permettait de gagner énormément en termes de consommation. Donc certainement que notamment dans les appartements, dans les habitats collectifs, il y a des choses intéressantes à inventer sans se priver forcément d'un bain de temps en temps, qui peut être bien utile par exemple pour les enfants, etc. Et en utilisant beaucoup moins cette ressource en eau. Donc peut-être qu'il y a des choses à inventer plutôt que d'interdire.
C'est ça.
Moi, je préfère inventer qu'interdire en général.
Kevin,
en France, on fait
et responsabiliser aussi.
En France, on fait
l'inverse. Kevin, on n'interdit rien, mais on l'interdit
plutôt
beaucoup.
Bain ou douche?
Moi, je n'ai pas de bain, donc forcément.
T'as pas de baignoire?
Non, j'ai pas de baignoire. Oui, voilà. Donc forcément, c'est douche. Mais
ça
enfin,
ne manque pas.
Ah, j'en ai absolument rien à foutre. Franchement, un bain, une douche. Hein. Et Sarah Salman, tout le monde lui tape dessus, mais elle a le droit de prendre deux bains par jour si elle le souhaite. Moi, je n'aime pas cet esprit stalinien qui voudrait interdire le fait de prendre des bains, le fait de faire ci, de remplir sa piscine pendant l'été.
Mais parce que l'eau est plus rare.
Je suis d'accord, mais à un moment, la cause écolo n'avancera pas comme ça.
Mais tu as vu qu'il y a des maires, maintenant, dans le sud de la France, qui interdisent toute nouvelle construction de piscine. Ce qui fait d'ailleurs que ceux qui ont des piscines, ça va prendre de la valeur. Hein. Mmh. Dans les prochaines années, à mon avis, ça va s'étendre à d'autres villes du sud de la France. Dans les prochaines années, ceux qui auront une maison avec une piscine, ils vont avoir vraiment quelque chose qui a de la valeur.
C'est déjà intouchable à cause des bobos parisiens qui viennent s'installer. Si en plus, attendez, à un moment donné...
On vient chez vous.
Non, mais on n'est pas là. On n'a pas dit. On tape pas sur Sarah Salman. Des Sarah Salman, il y en a des millions, malheureusement, en France et ailleurs. On te dit que moi je suis allée. Moi, je suis allée en Tunisie, dans un petit bled qui est même pas sur la carte. Tu vois, où l'eau est un bien hyper précieux en fait. Et j'ai vu ô combien les gens ont une utilisation de l'eau qui est raisonnée et c'est normal en fait. C'est dans les mœurs. Et si tu veux, je trouve que les pays occidentaux, de manière générale, surabuse des ressources naturelles et là on a un véritable problème d'eau dans notre pays et ailleurs dans le monde et je pense qu'il faut une consommation raisonnée, c'est-à-dire je suis pas pour qu'on interdise et qu'on lève la baignoire de Sarah, mais il faut que Sarah arrête de déconner à jouer de la provocation et dans l'absolu si elle se douche au lieu de se... Le problème pour moi c'est pas de prendre un bain ou de prendre une douche, le problème c'est de se laver déjà, tu vois, il faut juste se laver et tout le monde ira bien en fait.
Le problème, c'est qu'on s'est habitué à avoir l'eau quasiment gratuite, à des tarifs très bas, à pas faire attention à la manière dont on...
Et à nos limites, surtout.
À la manière dont on la consomme de l'eau. Oui, c'est ça, nos limites, c'est
alors
ça.
Alors maintenant, quand même, les gens, je pense, les gens font plus attention.
Plus attention quand même.
Il y a eu des campagnes de pub, de prévention.
Éteindre le robinet quand tu fais la vaisselle, pareil quand tu te douches.
Bien sûr, dans l'actualité, de parler de la sécheresse, de parler des incendies de forêt l'été,
la sécheresse. Toi, tu mises plus sur l'innovation que la contrainte, toi, en fait, c'est ça.
Parce que je pense qu'en fait, on peut, quand je lisais les chiffres, on peut gagner 30, 40, 50, 60% de consommation d'eau. Donc c'est énorme, si tu veux. Et donc je pense que oui. Par ailleurs, quand tu fais de l'innovation, tu crées des jobs, ça peut être éventuellement
d'ailleurs, les
français, tu peux l'exporter.
Tu as vu que les pommeaux de douche, maintenant, qu'on te vend dans les grandes surfaces, l'argument écologique devient un argument de vente. Sur, tu vois, tu as plusieurs vitesses de débit et on te dit, vous économisez, si vous prenez pommeaux de douche tel et tel, vous économisez de l'eau et donc vous économisez de l'argent. Quoi.
Encore une fois, excusez-moi, ça concerne qui ? Parce que les gens qui ont des revenus modestes font déjà attention à leur consommation d'eau. C'est des gens qui, quand ils font la vaisselle, ferment le robinet. Quand ils se douchent entre deux savonnages, ils éteignent le pommeau de douche aussi. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est... Encore une fois, Kevin, c'est pas pour taper sur Sarah Salman, c'est que ces gens qui ont tout en nos limites comprennent que les ressources naturelles, on est à un point historique là, de l'humanité, où les ressources naturelles ne sont pas nos limites et qu'il faut respecter notre environnement et qu'il faut respecter ceux qui n'y ont pas
d'ailleurs,
accès.
Il y a beaucoup de conflits liés à l'eau, autour du Nil, etc. Non, mais c'est un enjeu important, c'est sûr.
Et nous sommes avec Arnaud qui va en parler avec nous, il est au 32-16. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour.
Technicien gestionnaire d'un réseau d'eau potable, justement.
Oui.
Arnaud. Alors, est-ce qu'il faut dire un stop aux baignoires aujourd'hui ?
Alors, le problème se pose pas au niveau des baignoires. Ça se pose surtout au niveau du prix de l'eau, qui actuellement est trop bas. Sachant qu'en plus, c'est l'eau potable qui paye une majeure partie de l'utilisation de l'eau des prélèvements. Le problème, c'est le prix de l'eau, il est trop bas. Actuellement, on peut savoir combien il faut d'eau pour vivre par jour, en prenant une douche et le nécessaire domestique. Et à partir de là, toutes les consommations qui sont au-dessus, faire payer un prix de l'eau plus cher pour pouvoir mieux le gérer. Actuellement, qu'on prenne un bain ou qu'on prenne une douche pendant 17 minutes, c'est le même volume. Hein.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait.
Donc, qu'il y ait une baignoire ou qu'il n'y ait pas de baignoire, c'est pareil. Le problème, c'est qu'effectivement, on s'est habitué à laisser ouvert, à arroser les pelouses avec de l'eau potable. Donc déjà qui est une ineptie. Voilà, pour moi, c'est plus le problème de la gestion et du prix de ce bien, ce bien essentiel.
Donc vous êtes pour qu'on monte le prix, quoi, en fait, le prix de l'eau.
Comme ça
on se rendra mieux compte. Ouais.
Qu'on fasse une tranche, c'est-à-dire que on sait qu'on a besoin entre 5 et 10 litres d'eau par jour pour nos besoins sanitaires, consommation, plus on va rajouter 30 litres pour une douche par personne. Et à partir de là, ben, sur l'année, on sait combien ça représente le mètre cube. Et au-delà, eh ben, on dit le prix du mètre cube prend 20%.
Donc plus on consommera, plus on payera. Quoi,
non, mais ça voilà. Existe déjà, ça, monsieur. Vous savez, dans les logements sociaux, vous avez un quota de, par rapport à la composition familiale. Vous avez un quota de mètre cube en fait, qui est utilisé, enfin, qu'on vous donne. Et au-delà, vous payez en fait, à la fin de l'année, où on vous rembourse si vous n'avez pas assez consommé. Donc ça existe déjà, notamment.
Alors, ça existe, mais pas
chez les bailleurs sociaux.
Voilà,
mais, moi, je ne suis pas pour qu'on augmente l'eau dans un contexte où tout est déjà très cher, monsieur. En fait.
Non,
et l'eau, en fait,
pas,
vous ne buvez pas d'eau, vous mourrez, en fait.
C'est pas augmenter l'eau pour tout le monde. C'est simplement qu'à partir d'un certain volume, moi, je peux vous donner des exemples. En pleine période où on n'avait pas le droit d'arroser, je relevais des compteurs d'eau potable. Une personne était en train d'arroser son terrain, plus de 5000 m².
Je lui ai fait remarquer,
et la personne m'a dit, moi, je m'en fous, voilà, je paye, je fais ce que je veux. Mais la personne, si on lui faisait payer 50%, 100% de plus, ben, elle arroserait moins. Tandis que là, si on sait, on connaît la combien d'eau il nous faut, entre parenthèses,
qui est nécessaire,
par jour, voilà. Qui est nécessaire pour une vie normale, prendre la douche, faire la cuisine,
les machines,
la vaisselle et tout. Mmh. Voilà. Et par personne, par foyer, si on sait que c'est tant de mètres cubes par an, eh ben, à partir de là, on crée des marches en disant, ben voilà, vous dépassez de 20%, eh ben, on vous fait payer 10% en plus, ainsi de suite. Et cet argent-là permettra en plus de créer des opérations pour une meilleure gestion de l'eau.
Ça, et la rénovation du réseau aussi, Arnaud, hein, parce qu'on perd des milliards de mètres cubes aussi chaque année.
20%, oui, ça, je suis d'accord, mais il faut savoir une chose, c'est que les règles comptables publiques précisent que les conduites d'eau potable sont amerties sur 60 ans.
Ah ben ça peut être revu.
Ah ben oui, mais actuellement,
enfin,
c'est des règles comptables.
Mais on y travaille,
il ne faut pas...
Oui, bien sûr, on le voit d'ailleurs, on voit les travaux qui sont en cours. Merci Arnaud d'avoir été avec nous, d'avoir suggéré... Justement, de faire un forfait, puis au-delà, quand on dépasse ce forfait, on paye beaucoup plus cher. Arnaud de Haute-Garonne, on va aller dans les Côtes-d'Armor avec Yves. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce qu'il faut arrêter les baignoires?
Bah, moi, de toute façon, c'est clair. La baignoire, j'ai deux douches à l'italienne, une baignoire normale. Elle me sert que pour laver mon petit. Donc, il y a quoi? On va dire 5-10 litres dans cette baignoire. On les fait une fois, deux fois par semaine. Mais autrement, la baignoire, elle ne sert pas. C'est clair.
Et donc vous faites les douches?
Et je fais que les douches, bien sûr. À raison d'une fois par mois. Non, bien sûr, je rigole. Non, mais, non, mais bon, voilà. Mais par contre, moi, j'ai investi il y a 10 ans, quand j'ai construit, dans une cuve à récupération d'eau de pluie.
Ah, mais parce que vous vivez en Bretagne, vous avez une maison aussi,
ouais,
c'est
bah, ça? Ça, je l'attendais, c'était clair.
Ouais.
Ça, je l'attendais. Mais non, mais mis à part ça, il pleut partout, de toute façon, donc elle se remplit quand il pleut, voilà, on est d'accord.
Bah, chez nous, dans le sud, là, il pleut plus en ce moment, vous voyez, donc
aujourd'hui, c'est clair.
Ouais. Mais et comment? Et alors, vous récupérez l'eau de pluie et vous faites comment alors? Comment vous l'utilisez?
C'est-à-dire qu'elle est, elle est encavée sur ma pelouse, elle se voit pas.
Ouais.
Et voilà, j'ai mis un flotteur pour savoir quand elle est pleine, quand elle est vide, enfin voilà, quel niveau elle est. J'ai une vanne à l'intérieur de la maison que je coupe et que je remets sur le réseau normal quand je vois qu'elle est vide. Chose qui est, voilà. Mais le problème, je vais vous le dire, c'est que cette eau-là, elle est gratuite. Mais si je déclare ma fosse, je paye une taxe.
Mais c'est ça qui est dingue.
Mmh. Et voilà.
Ça, c'est la France. Il y a toujours une taxe à payer.
Elle va dans mes toilettes. Elle va dans mes toilettes, dans mon...
Il n'y a aucune raison que vous payiez une taxe.
Mais bien sûr, si je la déclare, je paye une taxe.
C'est de l'eau de pluie.
C'est rien. Alors, j'ai investi. Bon, elle m'a coûté, on va dire, 1000 balles quand ce que je voulais faire quand j'ai fait le terrasse en
Amérique. Bah, ne déclarez pas.
Oh bah, bien sûr que non.
Le type est vertueux, il fait l'installation, il
connaît la loi, il
est
bien.
Voilà. Ah, c'est ça.
La France.
Hier,
c'est la France. Les toilettes, mon robinet d'arrosage et comment dire, alors, les gens rigolaient, c'était l'été dernier quand je l'arrosais, bah oui, je payais pas la flotte. J'avais de la réserve. Donc j'ai mis mes toilettes et ma machine à laver.
Et combien de litres elle fait, votre eau mètre cube?
Elle
votre...
fait 3000 litres.
Ah oui, c'est pas mal.
Et elle s'est remplie, on va dire, cette année, je sais pas, 8-9 fois.
Ah, c'est beaucoup.
Ah oui, ça vous permet de tenir. Et ça se remplit en combien de temps avec les précipitations?
Ah ben moi, si vous voulez, j'ai un plein-pied qui fait 150 mètres carrés.
Oui.
Les gouttières sont branchées dessus. Je vais vous dire, vous allez rigoler, bien sûr, mais quand il s'appelait bien chez nous, je vais vous dire, en l'après-midi, elle est pleine.
Ah, effectivement.
Ouais. On est quand même dans un pays qui taxe aussi les abris de jardin, tu sais, donc
c'est possible.
Non, mais pour les chasses d'eau, pour arroser les jardins, pour arroser les golfs, on pourrait ne pas prendre de l'eau de...
Yves, l'abri de jardin, vous l'avez déclaré ou pas?
Bon, il est cassé derrière la maison, il
dit. Oui, mais alors attention, vous savez que maintenant le fisc utilise.
Ouais, il y a un drone.
Utilise des drones, des vues aériennes pour repérer les piscines non déclarées, les abris de jardin.
Il est sous l'arbre.
Ils mourront sur la cuve, mais ils mourront pas sur la cuve parce qu'elle est enterrée. Mais ils mourront sur l'abri de jardin.
Sacré Yves, hein. Je vous envoie un t-shirt DGG.
C'est ça, les Bretons.
Ah, c'est gentil.
Merci d'avoir été avec nous, d'avoir donné Yves les bons tuyaux.
À vous, merci beaucoup.
Salut Yves, merci d'avoir été dans les GG. Voilà, il a mis, lui, en Bretagne, il a mis une cuve de récupération d'eau de pluie, et puis il s'en sert pour son jardin, pour ses toilettes, sa machine à laver. Allez,
ça devrait être subventionné, tu vois.
Ingénieux, les Bretons.
Ah oui, ingénieux.
Mais tu vois, des mesures comme celle-là, pourquoi elles ne sont pas, au lieu d'être taxées, subventionnées? Parce que du coup, au final, tu consommes moins, en fait. Tu encourages les gens. Parce que, excuse-moi, pour la chasse d'eau, pour ton jardin et pour ton pommier, tu n'as pas besoin d'avoir de l'eau potable quand même. C'est complètement idiot, tu vois.
On devrait plutôt aider à l'installation et foutre la paix ensuite à la personne qui a.
Alors, la consultation stop aux baignoires, là, on en a parlé pendant un petit quart d'heure avec vous. Je remercie encore Yves d'avoir été avec nous.
Il y a le fisc chez lui. On vous a écouté dans les grandes gueules.
Est-ce qu'on a une petite consulte ou pas, les amis, à propos des baignoires? Stop aux baignoires. Non, c'est 57%. Non, hein. Le français est attaché à sa baignoire. Dans un instant, y a-t-il un problème de violence dans la police française? Après ce qu'on a vu à Sainte-Soline, après ce que l'on a vu du côté des manifestations, la demande d'interdiction des braves, les brigades de répression d'action violente, M, motorisées. Kauter dit oui, on a un problème. Olivier, Jean-Baptiste et Kevin disent non. Kauter fait face et seul face au reste du monde. À tout de suite au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Cruchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, avec aujourd'hui Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie, Jean-Baptiste Djebbari, l'ancien ministre des Transports, qui lance donc un fonds d'investissement dans les infrastructures.
Absolument.
Absolument, pour faire des infrastructures écolo, plus économes.
D'ailleurs, j'invite les manifestants de Sainte-Soline à se rapprocher de toi pour notamment peut-être être financés sur des projets alternatifs.
T'as pensé à pas t'embaucher.
Non, mais écoute. Il réclame une agriculture plus verte et différente. Donc peut-être
les soulèvements de la terre.
Il peut y avoir des initiatives innovantes.
Il sera bien accueilli, Jean-Baptiste.
Hein, oui. C'est dans les bassines.
Parce que ce sont tes amis.
Alors, sur les bassines. On y va pour le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Justement, on faisait allusion à Sainte-Soline. Sainte-Soline, plus de 4000 projectiles tirés par les gendarmes, deux manifestants qui sont dans le coma, une plainte déposée pour tentative de meurtre, appel à dissolution des braves, les brigades de répression d'action violente motorisées lancées par la France Insoumise avec une grande pétition. Il n'y a pas de problème de violence policière, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Il y a peut-être des soucis avec des actes individuels, mais dans ces cas-là, l'IGPN enquête. Nous ne sommes pas dans un état policier, c'est ce que dit aussi aujourd'hui le ministre de la Justice, monsieur Éric Dupond-Moretti. Donc, a-t-on un problème de violence dans la police française? Oui pour Kauter, non pour Kevin, Jean-Baptiste et Olivier. C'est Kauter qui a la minute et c'est au 32-16 que ça se passe. Kauter, c'est à toi.
Bien sûr qu'il y a un problème dans la police française. Il y a un problème qui est récurrent et qui date pas des manifestations de Sainte-Soline. Je rappelle que Malik Oussekine a été tué par les braves. Je rappelle que Rémi Fraisse est mort dans des conditions qui sont comparables à celles de Sainte-Soline. C'était un jeune homme, je crois, qui avait 22 ans à l'époque, qui est décédé tué par la police. Je rappelle que Zineb Redouane à Marseille a été tué par la police alors que nous étions dans une manifestation contre le logement indigne au lendemain des effondrements de la rue d'Aubagne en 2018. Je rappelle que Jérôme Rodriguez a perdu un œil et je rappelle qu'il y a des violences de manière récurrente depuis de nombreuses années et qu'il y a eu un basculement lors de la réforme El Khomri et ensuite un basculement encore lors des Gilets jaunes et que là, malheureusement, on atteint un troisième palier où, peu importe et n'en déplaise à ce que dit M. Dupond-Moretti ou M. Darmanin, mais nous avons l'impression, nous, citoyens français, que la police est utilisée à des fins d'intimidation de la population qui n'est pas d'accord avec le pouvoir en place, qui n'est pas d'accord avec les réformes, qui n'est pas d'accord de manière générale par la gouvernance de ce pays. Alors vous allez me dire qu'on peut voter par les urnes, mais quand on n'a aucun candidat qui nous correspond, il nous reste la contestation populaire, il nous reste la manifestation qui est un droit constitutionnel et qui n'est pas respectée dans notre pays, notamment en se servant de la police, certaines fois, comme une milice, et ça c'est intolérable.
Réponse, Kevin Bossuet.
Oui, alors déjà, je n'aime pas le concept de violence policière. Cela ne veut rien dire. Il y a certains policiers qui se comportent très mal, une infime minorité. Alors pourquoi parle-t-on de violences policières ? C'est comme si on parlait finalement de violences enseignantes pour quelques enseignants qui se comportent mal, ou de violences infirmières pour quelques infirmières qui se comporteraient mal. Donc ça n'a aucun sens, c'est quelque chose qui est idéologique. En outre, c'est quand même incroyable ce renversement des valeurs. Je t'écoute, Kauter, tu nous parles de Sainte-Soline. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Soline ? On était dans une manifestation qui était illégale. Par conséquent, tous les manifestants qui ont participé à cette manifestation illégale étaient dans l'illégalité. Donc à un moment donné, trouver des circonstances atténuantes à ces derniers est juste impossible. En outre, il y avait des gens qui étaient là avec des armes quasiment de guerre, qui étaient là pour taper sur la police, qui étaient là pour s'en prendre à l'ordre républicain. Et les policiers n'ont fait que se défendre. Et là, il y a tout un débat pour savoir s'il y a eu des violences de la part de la police, s'ils ont laissé passer les médecins, etc. Cela n'a aucun sens. La vérité, c'est que quand on est républicain, quand on a l'amour de la France chevillé au corps, on soutient notre police qui est courageuse, qui est brave pour faire face à ces excités comme à Sainte-Soline, qui ne visent qu'une chose, détruire notre cohésion nationale. Et de manière plus générale, évidemment, parfois, il arrive que nos policiers aient un mot de trop, etc. Mais il faut voir ce qu'ils vivent au quotidien. Moi, je suis en banlieue parisienne, ils se ramassent des insultes tout le temps, on les attaque tout le temps, on les dénigre tout le temps. À un moment, on les empêche même de travailler, parce que la vérité, c'est qu'ils ont des directives pour les empêcher de travailler pleinement, puisqu'on redoute en effet ce fameux dérapage. Donc on est dans une société extrêmement violente. Heureusement que la police est là, en effet, pour nous protéger de ceux qui n'aiment pas la France ou de ceux qui foutent le bordel dans notre pays.
Ce n'est pas une question d'aimer la France ou pas, mon cher Kevin. Je te rappelle, et tu viens de le dire toi-même, qu'on est dans une société qui est hyper violente. Et quand, en fait, quand tu me dis que c'est une manifestation illégale, c'est pas une manifestation illégale, c'est en fait le pouvoir, je t'ai écouté attentivement, donc écoute-moi attentivement, le pouvoir, en fait, se sert de toutes les armes qu'il a, et le pouvoir a toujours, les puissants ont toujours plus d'armes que le peuple. Il y a quoi, le peuple? Il n'a que la manifestation, en fait, de manière pacifique.
Le vote.
Et donc, oui, mais au-delà du vote, encore une fois, quand tu as personne qui te correspond, tu fais quoi? Ben, tu manifestes contre ceux.
Sur 14 candidats?
Tu peux n'avoir personne qui te correspond. Et d'ailleurs, on l'a vécu. Je vous rappelle que le premier parti de France, c'est quand même les abstentionnistes, et que c'est quand même un parti qui grandit de manière continuelle. Ceci étant dit, on va revenir sur le sujet, à savoir les violences. Donc, premièrement, au départ, tu me parles des fous furieux. Mais bien sûr que ça fait peur. Je suis la première qui manifeste. Donc moi, quand je vois des mecs arriver avec des haches et des boules de pétanque,
voilà.
Excusez-moi, oui, mais c'est pas les 3000, je sais pas combien il y avait de manifestants, c'est pas la totalité des manifestants, c'est une infime partie. Et il y en a partout. Et quand tu me dis qu'il n'y a pas de violence policière, que c'est un mot systémique, pour les manifestants, c'est pareil. Il n'y a pas 3 millions de manifestants qui sont violents.
Chez l'ultra-gauche, il y a une violence systémique.
Excuse-moi, moi je te parle des manifestants qui viennent avec leurs enfants, je te parle des paysans, je te parle de tout ça. Parce que tu me parles de Sainte-Soline. À Sainte-Soline, il n'y avait pas que des gars avec des haches, tout le monde serait mort en fait.
T'avais un cortège moyen, gentil, t'avais un cortège vénère.
Oui, t'avais un cortège, mais c'était pas 3000 personnes vénères.
D'accord.
Mais c'était pas 3000 personnes.
C'est pas ça le débat, c'est pas savoir combien ils étaient. C'est comment on fait pour riposter.
Non,
simplement. Oui, mais est-ce que tu as parlé?
Non, mais il faut bien que je réponde à Kevin. Donc si vous parlez trois en même temps.
C'est 3 heures, tu nous fais.
Je ne pas à 3 heures. Il y a parlé 3h30, donc voilà.
Je t'avais appliqué.
C'est un compliment de me comparer à lui. Crois-moi, c'est pas grave. Je préfère être comparé à lui.
Les masques tombent.
Qu'un mec qui exploite des gens.
S'il y a bien quelqu'un qui a exploité les gens, c'est bien Fidel Castro, qui est un sanguinaire.
Oui, mais c'est...
qui a tué des gens, qui a enfermé des prisonniers politiques.
Oui, mais
c'est une ordure, Fidel Castro.
Oui, mais comme beaucoup d'ordures.
Je
me réfère pas, c'est toi qui me dis ça quand je suis pas là, il y a des gens qui me le répètent. Donc
mais
ça, c'est
les mêmes
important.
Goûts que Jean-Luc Mélenchon.
Mais alors là, écoute-moi. Mélenchon, avec la bataille que j'ai contre lui.
Jean-Luc Mélenchon adore comme toi Fidel Castro.
Je n'adore pas Fidel Castro. Je te dis qu'à un moment donné, les gens, qu'est-ce qui leur reste comme moyen, et qu'en fait, vous mettez tous les manifestants dans le même sac. Je suis désolée. La police est violente.
Je te conseille.
Il y a quand même deux mecs qui sont entre la vie et la mort, quand même. Ça vous interpelle pas, ça.
C'est terrible. C'est terrible.
Ça vous interpelle pas.
C'est
normal.
C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est pas forcément la responsabilité de la police.
Ah.
Je dis, c'est pas forcément la responsabilité de la police.
Ils ont pris une boule de pétanque des gars.
On ne sait pas. On ne sait pas. On verra.
Mais ça serait intéressant de savoir.
Mais j'espère que les enquêtes vont le dire. Mais il y avait Manon Aubry, puisqu'on parlait de Jean-Luc Mélenchon, la députée insoumise européenne, voulait que le Parlement européen condamne les violences policières françaises. Je te conseille vivement d'écouter la réponse de l'ancien Premier ministre belge qui vient de la gauche d'ailleurs.
Ouais, qui vient de la gauche. Donc, ouais. Il y a un écolo en fait. Hein.
Même écolo, ouais. Et qui lui fait une réponse formidable, très claire, en disant qu'il n'y a pas de violence policière, il y a parfois des ripostes. D'ailleurs, les policiers n'interviennent que en tant que pour riposter. C'est-à-dire, ils se mettent pas dans une manif. Allez, on tape les gars. Non, ils ripostent. Et pourquoi ils ripostent? Parce qu'il y a de la violence de l'autre côté. Et donc, celle qu'il faut condamner, c'est la violence de ceux qui s'en prennent aux policiers. Et c'est vrai que c'est l'inversion des valeurs. C'est-à-dire, depuis plusieurs jours, on fait le procès de la police, mais il faut faire le procès de ces minorités, je suis d'accord, mais qui viennent pour péter du flic dans les rues de Paris, à Rouen, à Rennes.
C'est
et
bien
à Saint-Denis.
Que tu dises ces minorités.
Et la violence systémique, elle est dans ces groupes d'ultra-gauche parce que leur état d'esprit, c'est d'aller sur place pour se faire du flic. Et je suis désolé, mais c'est eux qu'il faut condamner. Oui, on devrait tous être d'accord pour les condamner.
Mais ça, il n'y a pas de problème, mais je l'ai dit.
On devrait se retrouver pour les condamner.
Mais je te l'ai dit, Kevin. Non, mais ça, je te l'ai dit.
J'aimerais bien que les députés.
Moi, quand je vais. Moi, je ne suis pas responsable ni des députés de la France Insoumise, ni de. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Je suis responsable de ma parole et de ce que je fais en manif. Et pourquoi je vais en manif? Je vais pour exprimer un rejet de quelque chose. Je vais ni pour me battre avec la police, ni pour prendre des coups de hache, ni pour en donner. Je vais sur un stand de tir, autrement si je veux tirer sur quelqu'un, pardon. Ceci étant dit, je suis désolée. Les exemples que je vous ai donnés, qui partent de Malik Osikine jusqu'à Zineb Redouane, ces gens sont morts sous les coups de la police. Bah c'est pas moi qui le dis.
Sur 30 ans, tu cites 3-4 personnes.
Ouais, mais
tu
parce que
dire que c'est systémique.
Non, parce que je t'explique. Parce que
c'est terrible, Malik Osikine.
Il y a plus que 3 que j'ai cités. On peut pas nier qu'il y a eu des hyper. Enfin, des deux côtés d'ailleurs. Tu sais, moi, la police, moi, elle me fait de la peine. Vraiment, parce qu'ils sont. Oui, oui.
On n'a pas l'impression.
Non, mais attends, ils sont surmobilisés, d'accord, et ils obéissent aux ordres. On oublie toujours. En fait, on fait le procès de la police, mais c'est pas de la police qu'il faut faire le procès. C'est du préfet, c'est du ministère de l'Intérieur, parce qu'ils obéissent. Si je peux terminer mon propos, ils obéissent à des ordres, en fait.
Ne fais que terminer tes propos.
Mais je peux le débat tous les trois. Ça fait un quart d'heure que je l'écoute, donc je peux répondre à Olivier.
Vous êtes
trois contre
sur ce sujet.
Je réponds à chaque fois.
Il faut qu'on entende tout le monde. Oui, Jean-Baptiste.
Moi, je pense qu'il y a un problème de violence en France. C'est ça quand même le fond du sujet.
Des deux côtés.
Et de violence dans la société, et qui monte, et plutôt plus qu'avant. Et de ce point de vue-là, les statistiques sont extrêmement claires. Ensuite, le sujet des violences policières, ça nécessiterait de dire... Enfin, ça pose la question de savoir si le système policier, l'État est policier, le système policier sert des intérêts politiques particuliers. Ou si les policiers en France sont là pour faire du maintien de l'ordre. Et ben la réponse, elle est quand même assez claire. Les policiers en France sont là pour faire du maintien de l'ordre.
Évidemment.
Et tout, enfin, j'ai pas.
Faut préciser que d'ailleurs les syndicats de policiers manifestent contre la réforme des retraites.
Aussi.
Les policiers sont
aussi des citoyens et ils peuvent être bien sûr. Et c'est pas du tout pour le coup incompatible. C'est ça la démocratie. Et après, Kevin et Olivier ont dit beaucoup de choses. Je vais pas répéter, mais tout est filmé aujourd'hui. T'as bien vu quand même que dans les cortèges, quand t'as des cortèges, t'as 200 vidéastes, plus ou moins journalistes autoproclamés d'ailleurs, qui filment absolument tout. Donc il y a une transparence qui est faite sur tout ce qui se passe dans une manifestation qui est totale ou quasiment totale. Donc on a aujourd'hui tous les éléments pour que des enquêtes de l'IGPN soient faites, pour qu'effectivement, quand il y a des violences illégitimes qui sont commises, parce que ça peut arriver, les gens soient punis. Il faut évidemment accélérer le temps de la justice parce que tout le monde a besoin d'avoir des réponses beaucoup plus rapidement que c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, je pense que on n'est pas en castrisme ici. On est dans un état démocratique, oui, dans lequel il y a beaucoup de transparence, dans lequel on doit maintenir l'ordre parce qu'il y a de la violence parfois qui s'exerce et de plus en plus. Et de façon incontrôlée et de façon illégitime et que
l'État. Mais moi, tu vois, quand tu dis de façon illégitime, moi je ne suis pas. En fait, il n'y a pas des deux côtés. Il n'y a pas de violence légitime.
Si.
Tu vois, tu étais au gouvernement, excuse-moi.
Ah bah, si.
Je peux vous répondre ou encore une fois vous allez parler.
C'est la décision de la police.
Voilà. Moi, quand je vois Benalla dans une manifestation qui fracasse. Oui, mais justement.
C'est illégitime.
Mais justement. Et ça a été filmé. Voilà. Et si ça avait. D'abord, au départ, qu'est-ce qui fait. Oui, ça a à voir. Il était côté de la police. Donc, les gens, quand ils se prennent des coups de batte, ils croient que c'est un flic au départ. Excuse-moi, ils savent pas que c'est un manifestant lambda.
Les policiers ont droit d'utiliser la violence. C'est les seuls, d'ailleurs. Voilà.
Excuse-moi, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a lu un texte, je crois que c'est toi, Alain, qui a dit, ils répondent à la violence sur des situations tendues. Le rôle de la police, pour moi, tu sais, je vais toujours à leur rencontre, je leur pose la question. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Moi, ça m'interpelle, en fait, de pourquoi tu choisis ce métier au départ. Parce que c'est pas, comme prof, tu vois, c'est pas un métier à dodingue. C'est des vocations. Certains métiers sont des vocations.
Protéger les gens, c'est un beau métier, quand même.
Oui, non, mais. Tu serais surpris.
Ça s'appelle la tyrannie, si
tu serais surpris des réponses comme elles sont différentes de pourquoi ils ont commencé au départ, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et moi, je trouve que ça serait intéressant que quelqu'un d'extérieur, tu vois, fasse une enquête auprès de ces policiers en leur garantissant l'anonymat parce qu'ils ont un devoir de réserve, etc., etc.
Alors,
ceci étant dit,
sur les violences. Ils disent quoi, alors, du coup?
Comment?
Les policiers que tu vois.
Je sais pas ce qu'ils disent. Ils disent quoi, alors?
Après ton teasing castriste, là. Ils te disent quoi, les policiers?
Non, arrête des titres bidons. Il y a beaucoup de filles que je connais qui ont démissionné de la police. Parce que justement, le fonctionnement, il est opaque et que des fois, ils n'ont pas le droit de balancer leurs copains et qu'il y a des choses qui sont compliquées à l'intérieur, y compris pour les flics.
Et puis, parfois,
c'est difficile pour eux. Parce que toute leur vie, ils ont été flics. Donc, tu vois, quand tu parles de reconversion, pour un flic, pour une aide-soignante, pour une infirmière, c'est compliqué la reconversion. Parce que quand tu fais ça.
Ils ne supportent pas qu'on leur crache à la gueule matin, midi et soir.
Mais il n'y a pas que ça.
Qu'ils soient menacés, que leur famille soit menacée, que leur nom soit balancé.
Il n'y a pas que ça.
Interroge-les.
Mais il y a.
Tu les connais visiblement.
Je ne les connais pas. Je t'ai dit que je vais à leur rencontre dans les manifestations et que je leur parle. Parce que moi, je ne les considère pas contre moi. Et que leur rôle, c'est de protéger et qu'il ne faut pas qu'ils répondent à la violence. Ils devraient être formés pour ça. Ils devraient être accompagnés.
Ils doivent répondre à la violence.
Dans un instant, Cédric.
Ils doivent la maintenir.
C'est la tyrannie.
Cédric, qui est policier, prendra la parole. Emmanuel, qui estime que oui, on est quand même face aujourd'hui à un problème de policiers, pour certains qui sont violents, deux points de vue, et puis on verra où on en est dans la consultation. A-t-on un problème de violence dans la police? Une équipe dit oui, c'est Kauter face à Jean-Baptiste, Kevin et Olivier, et on verra où on en est dans la consultation qui mène à la mi-temps.
C'est 9h30, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, sur RMC, RMC Story, on parle du grand débat du moment, outre la contestation de la réforme des retraites, on a en parallèle des questions qui se posent sur le maintien de l'ordre et ces accusations de violence policière. Est-ce qu'on a un vrai problème de violence dans la police française, de maintien de l'ordre, oui ou non? Kauter dit oui, de l'autre côté, ça réplique non avec Kevin, Jean-Baptiste et Olivier. On va regarder où on en est dans la consultation, justement. Allez, on envoie le résultat à la mi-temps, il nous reste un quart d'heure à débattre avec Cédric et Emmanuel au 32-16. Go, envoyez les enfants. Hop. Oui, il y a un problème, 57%. C'est Kauter qui mène 57-43 avec une avance sérieuse.
Merci.
Une
mélangeonisation des esprits, voilà, on y
est. Mais il y a un tout. Sentiment antiflic qui
pas,
se développe.
Tu peux pas m'accuser à moi d'être mélangeoniste.
Non, il parlait de
voilà.
Alors,
voilà.
Cédric, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes policier national. On peut dire dans quelle région, dans quel département ou dans quelle ville?
Oui, bien sûr.
Vous êtes où alors?
À Lyon.
À Lyon. Alors, Cédric, est-ce qu'aujourd'hui on a un problème de violence dans la police française?
Eh ben, j'ai envie de dire qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. S'il y a eu violence et si les images qui ont été montrées montrent qu'il y a eu de la violence, eh ben, il y aura sanction et c'est très bien comme ça. Maintenant, au niveau des manifestations, comment on peut répondre à de la violence dans du maintien de l'ordre quand on reçoit des boules de pétanque, des pavés?
Ça vous est arrivé,
de
vous
la part de certains, sans répondre avec la force proportionnelle. C'est pas possible.
Ah oui.
Quand les premières manifestations étaient gérées par les syndicats, il n'y a personne qui a parlé de violence. Tout s'est très bien passé.
Elles sont toujours gérées par les syndicats, monsieur. C'est à la fin où il y a des groupes qui sont extérieurs aux revendications. Mais ça, il n'y a personne qui le nie, monsieur. Et ces gens-là sont d'abord dangereux pour nous, les manifestants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il n'y a personne qui le nie. Et je pense que, enfin, j'espère que tout le monde le condamne. Bon, je n'ai pas regardé trop les infos cette semaine. J'ai été fracassée par le Covid. Mais j'espère que tout le monde le condamne. Parce que
Moi, je le condamne.
Mais moi aussi, je le condamne, monsieur. Encore une fois, je ne vais pas dans une manif pour être. Je me suis déjà interposé, moi, entre la police et les manifestants.
Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Comment tu peux riposter sans violence à des gens qui te balancent une boule de pétanque?
Allez-y, Cédric.
Je vais vous donner un exemple tout simple. Cette semaine, à la manifestation nationale, donc de mardi, le cortège est parti de Lyon. Au bout de trois minutes, vous m'entendez bien, hein, ils ont été obligés d'exploser le début du cortège parce que des gens habillés en noir jetaient déjà des boules de pétanque.
Ouais.
Donc on est obligé d'exploser le haut du cortège de façon à ce que la manif puisse continuer d'avancer dans le calme.
Pour séparer les violents des autres.
Je peux vous poser une question, monsieur?
Exactement.
Oui, je peux vous poser une question?
Oui.
Je sais que ça avait été fait dans les stades à une époque pour d'autres raisons, pour des personnes qui étaient violentes dans les stades. Ces personnes-là que vous identifiez, que vous nommez comme des black blocs, sont identifiés. Moi, la police, elle a tous mes profils à force de me prendre en photo et de me filmer dans les manifestations. Donc ces gens-là, et il y a plein de policiers qui l'ont dit, notamment sur les plateaux de BFM, etc., sont identifiés. Donc pourquoi vous ne les faites pas pointer dans un commissariat avant ou pendant la manifestation, en fait? Pourquoi vous... Il y a d'autres moyens, en fait, que la répression violente. Oui, non, mais ça change. Non, mais excuse-moi, mais quand il y en a 300, si tu fais 150 qui sont identifiés, qui ne sont pas, c'est mieux quand même.
Tu peux pas interdire quelqu'un d'être sur la voie publique.
Vous pouvez les convoquer dans un commissariat, mais s'ils ne viennent pas, on fait quoi? ils seront quand même dans la manifestation.
Oui, c'est pas comme un stade. Le stade, c'est facile parce qu'il y a les portes d'entrée, on contrôle. Voilà. La voie publique, tu peux pas interdire quelqu'un d'être dans la rue. D'ailleurs, leur méthode, d'ailleurs, on dit les Black Blocs, mais c'est plus une méthode. Ils s'appellent pas même Black Bloc. Mais ils arrivent normalement, ils sont pas forcément habillés en noir, ils changent. Ce que me disait un spécialiste des Black Blocs, c'est ça change. D'ailleurs, ils sont de plus en plus jeunes, il y en a qui ont 15-16 ans. Et puis ça change. Ils font ça une fois, deux fois, et puis après, c'est d'autres. Donc c'est difficile de les identifier précisément. En revanche, ce qui a été noté, c'est que dans la dernière, pas la dernière, l'avant-dernière, le jeudi, il y a eu 1500 casseurs émeutiers dans la manif, et c'était quasiment un record. Et d'ailleurs, beaucoup viennent de l'étranger, ils n'ont rien à foutre de la réforme des retraites. Voilà. Quand on me dit, oui, bien mais sûr. C'est une nouvelle façon de... Bien comprenez, il n'y a que la violence pour faire plier Macron. Mais je pense que le type qui est venu d'Allemagne ou d'Espagne, je pense que les carrières longues françaises, les 1200 euros, je ne suis pas convaincu qu'il ait vraiment suivi le débat.
Monsieur, vous êtes policier. Moi, je suis porte-parole de la famille de Zineb Redouane, que je ne connais pas, par ailleurs, et qui m'a contacté à l'époque par un avocat, parce que personne n'est ici. Vous dites qu'il faut saisir la police. Nous avons saisi la police, sauf que à ce jour, ça fait bientôt 5 ans, nous n'avons pas réussi à avoir les caméras, ni les je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des LBD, mais c'est un truc presque pareil pour les analyses, etc.
Des encerclements.
En fait, c'est comme un LBD. Ils l'ont tiré au troisième étage, elle est morte, elle s'est prise dans la tête, Adam, elle avait 80 ans. Donc on n'a même pas, 5 ans après, l'enquête n'a même pas abouti et on a classé l'affaire. Il y a une autre, j'ai mis 3 semaines pour récupérer le corps et pour l'envoyer à sa famille pour qu'il soit inhumé. Quand il est arrivé en Algérie, excusez-moi, je termine, il y a eu une, à l'aéroport, c'est l'État algérien qui l'a commandé, il y a eu une autopsie. Les conclusions ne sont pas celles que celles de la France. Donc moi, je veux bien qu'on fasse des procédures, mais il faut, si vous voulez, pourquoi les gens sont hyper méfiants envers la police aujourd'hui et pourquoi ce sondage, il est de mon côté? Parce qu'en fait, il faut oser le dire, il y a une espèce d'omerta aussi, de corporatisme.
Cédric.
Qui fait que les plaintes n'aboutissent pas toujours. Il y a eu 11 saisines cette semaine, monsieur. Là, 11 saisines.
J'ai envie de vous répondre. Là, on n'est plus dans le système police. Si on ne vous répond pas, si vous, les plaintes n'aboutissent pas, si vous n'avez pas vos vidéos, c'est le ministère de la Justice, c'est le procureur général, c'est pas la police. S'il y a entrave de quelqu'un, c'est pas la police, c'est la justice. Et je dis bien s'il y a entrave, parce que je ne connais pas le dossier exactement. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait du maintien de l'ordre, ce que beaucoup oublient, c'est que quand on est du maintien de l'ordre, qu'on se fait jeter des cocktails Molotov, de l'acide, des boules de pétanque, il y a quand même une pression de l'adrénaline qui vient, et il faut la tenir, l'adrénaline. Et on est là, je vous le certifie, les 99% de policiers de France, quand ils font du maintien de l'ordre, c'est pour sécuriser les manifestants qui veulent manifester dans le calme, avec leurs revendications, sans rien casser.
Je n'en doute pas.
On l'a vu, effectivement. Cédric, je vous remercie.
Merci, je n'en doute pas.
D'avoir été avec nous, Cédric. On va écouter Emmanuel de Seine-Saint-Denis. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, les GG.
Bonjour, madame.
Quel est votre point de vue, alors, Emmanuel, vous ?
Alors, mon point de vue, c'est que ce ne sont pas exactement des violences policières, ce sont des violences d'État, puisque la police est le bras armé de l'État. Est-ce que je peux vous faire remarquer une petite chose que...
Allez-y.
Chaque fois qu'il y a eu des blessés graves, je pense au petit Steve qui a été poussé dans la Loire pendant la fête de la musique, à Mademoiselle Lignier qui a été éborgnée et qui était en marge des manifestations, cette enseignante récemment qui a perdu un pouce. Tous les blessés graves ne mettaient pas la République en danger. Je n'ai jamais vu un Black Bloc blessé grave. Ce sont toujours des gens qui ne mettaient pas la République en danger. J'ai moi-même été gilet jaune tout au début, tout à fait pacifique, et je tiens à dire, je suis ni d'extrême gauche, ni anarchiste, c'est important de le dire. Je venais tout à fait pacifiquement avec des groupes pacifiques sur les premières manifestations gilets jaunes, direct, alors qu'il n'y avait personne de violent dans nos rangs. On se faisait mettre, c'était au niveau des Champs-Élysées, les abords des Champs-Élysées, on se faisait nasser pendant plusieurs heures avec grenades. C'était très traumatisant. Et je peux vous dire, quand vous êtes nassé, qu'on vous envoie du gaz lacrymogène pendant deux heures, la violence monte en vous. Parce que
c'est manifesté interdite.
Au fond de vous, moi, je n'y vais pas. Vous savez pourquoi je n'y vais plus? D'abord parce que j'ai peur d'être éborgné, tout bête. Et ensuite, parce que je sens que j'ai trop de violence en moi maintenant, après tout ce que j'ai subi alors que je n'étais pas. J'ai vu une petite mamie qui venait de la province parce que pour parler de sa retraite. Elle s'est pris un coup de matraque sur la tête. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais souligner, que vous ne relevez pas et qui me semble très... ça me perturbe que vous le releviez pas. Récemment, Linda Kebab du syndicat de police SGP est sortie de son droit de réserve pour expliquer qu'ils avaient pour ordre de ne pas gêner les Black Blocs. Et ça, j'en suis persuadée depuis le début. Je voudrais qu'on aille au bout de cette histoire. Je pense que l'État est responsable, pas la police. La police exécute et qu'ils ont des ordres qui mettent en danger la population et eux-mêmes. Pourquoi eux-mêmes ? Parce que quand on laisse faire les Black Blocs et quand on tape sur les mauvaises personnes, elles deviennent radicales elles aussi, et ça devient de plus en plus dangereux. Et ça
ce qui est problématique dans ce que vous dites, Emmanuel, c'est d'abord, vous utilisez le mot violence d'État, donc ça voudrait dire, dans votre conception des choses, que l'État ordonne de commettre des violences pour elle-même, et non pas de maintenir l'ordre.
Vous savez pourquoi ils font ça ? Parce que parce que ça décrédibilise les mouvements.
Exactement. J'attendais que Jean-Baptiste
On a l'axe complotiste.
Pas du tout. Les gens se sont arrêtés
parce qu'ils étaient trop violents. Et d'ailleurs, il y a eu une très grande réprobation de l'opinion publique à l'époque sur les violences commises. C'est ça qui fait la fin du mouvement. Parce qu'au départ, le mouvement des Gilets jaunes avait le soutien d'une très grande partie de l'opinion publique. En vérité, sur les fondements des revendications.
Mais attends, si on peut répondre, parce que là, ils nous interpellent
plus. Je vais répondre aussi.
On est quand même dans une. Je finis vraiment là-dessus, mais dans une démocratie transparente, il y a des commissions d'enquête parlementaire, tout est quasiment filmé. Il y a X dizaines de saisines de l'inspection générale de la police nationale. Et donc, pour tout ça. Kevin. Pour vous, tout ça n'existe pas.
Pour répondre à Emmanuel.
Moi, je trouve que les propos tenus sont extrêmement graves. Il y a une remise en cause de la police républicaine, mais il y a aussi une remise en cause de l'État. Comme si on était dans un État policier, que madame aille en Biélorussie, en Chine, en Corée du Nord, et elle verra ce que c'est que la violence des policiers. En outre, elle met en avant des faits qui ont eu lieu lors de manifestations interdite. Lorsque les manifestations sont interdites, si on va quand même manifester, on est un délinquant. Point final, parce que on brave les lois. Si on ne s'entend plus autour de ce consensus du respect des lois, il n'y a plus d'État en France, il n'y a plus de société, et c'est l'anarchie. Donc moi, je commence à en avoir marre qu'on s'en prenne à nos policiers, qui sont courageux, qui font un travail exceptionnel, qui ont une mission extraordinaire, qui est celle de nous protéger, et quand j'entends l'extrême gauche instrumentaliser cela, leur taper dessus tout le temps, moi ça me fait vomir. Merci à la police, on vous aime, continuez.
C'est fini. J'ai sifflé. Y a-t-il un problème de violence dans la police française? On va regarder. Je remercie Emmanuel d'avoir été avec nous. Oui, à 55%, c'est Kaouter qui l'emporte. Oui, 55-45.
Vous voyez les gars?
On se retrouve
même seul contre tous
demain avec Bruno Poncet, le cheminot, notre agriculteur de Saône-et-Loire, Didier Giraud. Nous serons avec l'avocate Sarah Salman. Mais en attendant, le débat continue sur RMC, RMC Story avec Estelle Denis. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG, salut à tous. On va parler, de ce plan eau d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans les Hautes-Alpes. Est-ce qu'il faut surtaxer les gros consommateurs pour lutter contre le manque d'eau? C'est-à-dire, plus vous consommez, plus vous payez. On en parle dans un instant et on attend vos réactions au 32-16. Une femme arrêtée par la police car elle avait insulté le président de la République sur Facebook. Est-ce que ça va trop loin? Et puis enfin, la ville de Pau qui conditionne l'obtention du RSA à 15 heures d'activité par semaine. Pour ou contre, on en débat à ça à 14h et on vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC.
Et nous, on se retrouve demain dès 9h. N'oubliez pas les podcasts. Vous récupérez l'émission en différé sur notre site internet rmc.fr et sur l'appli RMC. Bonne émission avec Estelle.
Merci.